Je vais donc lire la partie traduite non par moi mais par les auteurs de la publication du livre en question, relative au texte latin que j'ai mis en exergue sur le site presley.fr. Et il faut que je vous traduise justement cette partie parce que je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. Ce serait une faute de ma part et un égoïsme mal placé. C'est parti. C'est à tort que le genre humain se plaint de sa nature et déplore que, impuissante et de courte durée, son existence soit régie par le hasard plus que par le mérite. À bien y réfléchir, au contraire, on ne saurait trouver rien de plus grand ni de plus excellent, et l'on constate que c'est moins la force ou le temps qui lui manque que l'art de les bien employer. Or, ce qui guide et ce qui commande la vie des hommes, c'est l'âme. Marche-t-elle vers la gloire par la voie de la vertu? Elle possède en abondance la force, la puissance, l'éclat, et n'a pas besoin de la fortune, par celle-ci ne peut donner ni ravir à personne la probité, l'énergie et les autres qualités morales. Mais si, prisonnier de passions vicieuses, l'homme sombre dans la paresse ou les plaisirs des sens, après avoir joui quelque temps de ses voluptés pernicieuses et vu se dissiper dans l'inaction ses forces, son temps, son intelligence, il accuse alors la faiblesse de sa nature. Chacun fait retomber sur les circonstances les fautes dont il est lui-même responsable. Que si les hommes recherchaient les biens véritables avec la même ardeur qu'ils mettent à poursuivre des objets étrangers à leur nature, inutiles, souvent même dangereux et pernicieux, loin d'être régis par les événements, ils les gouverneraient eux-mêmes et ils s'élèveraient à un degré de grandeur qui, de la condition mortelle, les mènerait par la gloire à l'immortalité. Car l'homme étant composé du corps et de l'âme, toutes nos activités, tous nos penchants procèdent de la nature de l'un ou de l'autre. Aussi, la beauté physique, la richesse, ajoutons la force corporelle et autres choses de ce genre, passent en peu de temps, mais les productions éclatantes de l'esprit sont, comme l'âme, immortelles. Voilà, alors je reviens sur l'emploi de mérite. Évidemment, nous sommes quand même un peu plus de 2000 ans d'histoire et aucune comparaison avec l'emploi fait aujourd'hui de ce mot dans un esprit de progressisme politique. Voilà pour ça. Pour revenir à l'âme, où on retrouve le pneuma souffle chez les Grecs, ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est que l'auteur, puisqu'il est plus ancien que Plotin, n'a pas lu Plotin. Donc n'a pas pu s'inspirer de la pensée Plotin qui est analogue à celle-ci. À ceci près que Plotin renferme une vérité sur l'esprit, l'âme, ce pouvoir que l'au-delà permet de conférer à ceux qui l'approchent, parce qu'on ne fait que l'approcher, on n'est jamais pénétré en intérieur. Et Plotin met en exergue cette vertu que la beauté et la vérité, et vice-versa. Merci.